Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à un géant qui n'en finit plus d'engranger des bénéfices records.
Et à la une, ces milliards qui vont faire couler beaucoup d'encre après la BNP hier. C'est Total Energy qui annonce des bénéfices nets records l'an dernier, plus de 19 milliards d'euros pour le groupe pétrolier.
Total dans la lignée des grands groupes pétroliers, BP, Exxon, Shell, Chevron, des profits historiques qui se sont même invités au cœur du discours sur l'état de l'Union du président américain Joe Biden.
Have you noticed Big Oil just reported his profits?
L'année dernière, dit le président américain, Big Oil, nom donné aux majors américaines du secteur pétrolier, a réalisé des profits records. 200 milliards de dollars, dit-il, au milieu d'une crise énergétique mondiale. Et Joe Biden de conclure, je pense que c'est scandaleux. Des profits critiqués aussi en France. Et une nouvelle fois revient sur la table la question de la taxation des super-profits. Mais plus que ce débat, c'est presque un paradoxe que je voulais poser ici dans ce focus. Avec de telles sommes engrangées, les acteurs des énergies fossiles sont-ils aujourd'hui devenus les seuls à pouvoir financer la transition vers un monde sans carbone? Sont-ils autant le problème que la solution? Leurs ressources peuvent-elles être une chance pour sauver le climat? C'est ce que l'on va tenter de voir avec vous. Thierry Brosse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste énergie et climat. Alors d'abord aujourd'hui, pour être très clair, quand on parle de ces profits, de ce bénéfice record engrangé par Total Energy, ces sommes-là, elles servent à quoi? Elles sont réparties comment?
Eh bien, pour une grande partie, elles vont être réinvesties. Et alors effectivement, la question, c'est où est-ce qu'on les réinvestit? De l'ordre de 25% seront réinvestis dans des énergies bas carbone. Et donc là, effectivement, c'est plutôt favorable au climat. Mais une partie reste investie dans le pétrole et dans le gaz. Et il faut se poser la question pourquoi? Tout simplement parce que Total, BP, Shell vendent du pétrole et du gaz dont nous avons besoin. C'est nous, consommateurs, qui faisons en partie ces prix élevés, puisque nous sommes demandeurs, malheureusement, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, le monde consomme plus de 100 millions de barils par jour de pétrole. Et c'est ça qui fait que nous avons un pétrole cher, parce que les investissements dans l'amont pétrolier, eux, n'ont pas été suffisamment élevés ces dernières années. Et donc, vous avez une tension sur les prix. Et nous avons pendant très longtemps, vous évoquiez le discours du président Biden, nous avons pendant très longtemps pensé que nous serions capables de nous sevrer de ce pétrole et de ce gaz. Malheureusement, nous n'en sommes pas capables.
Oui, Joe Biden le dit d'ailleurs lui-même, on aura besoin de pétrole et de gaz pendant encore au moins une décennie. C'est ce qu'il dit. Donc vous évoquez 25% des sommes réinvesties dans les énergies renouvelables. Ça veut dire donc 75% dans les hydrocarbures, dans les énergies fossiles, gaz, pétrole.
Oui, c'est à peu près cet élément-là. Et regardez BP hier, qui pensait sortir du pétrole plus rapidement, est revenu en disant finalement je vais revenir et réinvestir encore une partie de mes profits dans le pétrole et le gaz. Il faut aussi se rappeler que le pétrole et le gaz, c'est une industrie en économie, c'est une rente. Et donc, ce sont des activités qui sont beaucoup plus rentables que des activités sur de l'énergie verte. Je vous donne juste un ordre de grandeur. On parle du baril que l'on paye 80 dollars aujourd'hui sur les marchés internationaux. Produire un baril en Russie, ça coûte 10 dollars. Produire un baril aux États-Unis, ça coûte 50 dollars. Donc vous voyez, c'est une industrie extrêmement profitable. C'est aussi pour ça que l'on a des profits si élevés en ce moment de la part de ces compagnies pétrolières. Et donc c'est aussi un changement et de business model et un changement de profitabilité qui va être très compliqué pour ces sociétés-là.
Changement qui va être compliqué, mais qu'elles préparent ou pas? Parce que quand vous dites que BP finalement se dit que la fin du tout pétrole, ce sera peut-être un peu pour plus tard, elles entendent aujourd'hui profiter tout de suite des prix élevés sans se projeter sur la suite?
Alors, il faudrait qu'elle se projette peut-être plus sur la suite. Et un des moyens, c'est une contrainte politique. Et pour faire cela, alors aux États-Unis, vous avez des subventions pour essayer d'aller vers les énergies vertes. En Europe, vous avez aussi cet élément-là. Mais en Europe, depuis quelques années, on a aussi mis un prix sur le CO2. Et donc, c'est un moyen, ce prix sur le CO2, pour forcer les compagnies, mais aussi les consommateurs, à se décarboner, puisque le pollueur va devoir payer.
C'est-à-dire que l'élément politique, ce qui revient souvent dans le débat politique en France, c'est la taxation même des super-profits, du résultat final. L'idée là, avec cette taxation sur le CO2, ce serait de dire, eh ben, vous polluez, donc vous contribuez à la hauteur de votre pollution, pollueur-payeur.
Oui, c'est exactement cela. C'est le fameux trading de CO2 qu'a mis en place la Commission européenne. Par contre, malheureusement, il y a beaucoup de trous dans la raquette et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne va pas assez vite face à cette urgence climatique. Juste un ordre de grandeur, la moitié des permis à polluer pour les sociétés qui participent de façon obligatoire à ce système européen, la moitié des permis à polluer sont donnés gratuitement. Donc vous voyez, vous n'avez pas une volonté des Européens, des politiques européennes, de pousser cette décarbonation au maximum. Je vous donne deux exemples. Pour l'industrie de l'acier, dont on dit toujours qu'elle va un jour produire de l'acier vert, l'industrie de l'acier bénéficie de plus de permis à polluer que ce qu'elle en génère. Donc effectivement, elle a une subvention cachée pour polluer. L'industrie du raffinage, puisque c'est de là aussi dont on peut se poser la question aujourd'hui, l'industrie du raffinage bénéficie de 80% de ses permis à polluer de façon gratuite. Et donc oui, on pourrait aujourd'hui décider que une grande partie de ces permis gratuits n'ont plus raison d'être dans un monde où l'urgence climatique est absolue et pousser ces compagnies à payer pour leur pollution. Et payer pour leur pollution voudra dire qu'à ce moment-là, elles vont imaginer des process plus efficients et donc moins polluants.
Alors, on a évoqué la question de la contrainte politique, en tout cas de l'orientation, du fléchage aussi, peut-être de ces profits et de ces bénéfices faits par Total. Et il y a un pays notamment qui, dès le milieu des années 90, s'est dit, on va constituer un bas de laine grâce à cette rente pétrolière. C'est la Norvège, avec un immense, un gigantesque fonds souverain dont nous parlait dans RTL Matin, François Langlais.
Chaque année, l'État met dans le fond tout ce que lui rapporte le pétrole et le gaz. Le produit des impôts, des permis d'exploration, les dividendes de Statoil, c'est la compagnie nationale de pétrole, elle aussi détenue très majoritairement par l'État. Le fonds a été créé en 96, enfin un petit peu avant, mais il n'a été abondé qu'à partir de 96, avec l'idée d'investir les dividendes de l'or noir pour les retraites des Norvégiens et pour les générations futures. C'était pas bête. Ça représente aujourd'hui 170 000 euros pour chacun des 5 millions de Norvégiens. Vous voyez que c'est considérable.
170 000 euros aujourd'hui pour chacun des Norvégiens, disait donc François Langlais. Est-ce que ça pourrait être une idée, ça aussi, finalement, Thierry Brosse, de se dire on fait un bas de laine grâce aux rentes de Total Energy ?
Alors, pour la Norvège, c'est une décision d'État, puisque c'est, encore une fois, les États sont souverains sur la réserve, donc le pétrole et le gaz. La Norvège l'a décidé et effectivement, il faut saluer cette décision. La Russie fait la même chose, l'Arabie Saoudite fait la même chose. D'autres pays ont décidé de faire complètement différemment. Le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, qui étaient de grands pays producteurs, ont décidé, eux, de mettre cet argent directement au budget général. Et donc, effectivement, vous avez une très grande différence entre une politique norvégienne aujourd'hui et une politique des Pays-Bas, où l'un peut réfléchir à comment imaginer un futur plus vert, alors que l'autre a dépensé la rente payant pour son budget chaque année. L'État français, comment peut-il faire ? C'est compliqué puisque, encore une fois, Total paye peu d'impôts à l'État français puisque les impôts qu'il paye pour l'essentiel sont aux pays producteurs de pétrole qui, eux, sont souverains sur la rente. Et c'est là la difficulté. C'est comment est-ce que un État peut imaginer un futur plus vert alors qu'il n'a pas cette rente. Alors, la seule, finalement, rente que avait peut-être un peu l'État, c'était celle sur le nucléaire, et vous savez que elle est un peu partie en fumée ces derniers temps.
Donc aujourd'hui, l'État a difficilement les moyens de contraindre un groupe comme celui de Total Energy ?
Ah non, l'État a tout, l'État a des prérogatives fiscales, donc il peut à la fin décider d'intervenir d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pour ça que j'évoquais avec vous plutôt ce principe économique du pollueur-payeur et de dire finalement si toutes les raffineries qui étaient en Europe payaient le vrai prix de leur pollution, eh bien elles devraient payer l'équivalent. Donc l'ensemble, hein, Total, BP et les autres, devraient payer l'équivalent de 6 milliards permis à polluer, en plus 6 milliards d'euros par an. Et donc oui, là on pourrait récupérer, refaire des bas de LED, mais encore une fois, il faut avoir une vision et du monde de demain et une vision de la fiscalité qui soit en cohérence.
On parle donc de 19 milliards d'euros de bénéfices nets pour Total Energy. Moi, je lisais que la transition, le coût de la transition par an, ça pouvait être entre 12 et 15 milliards d'euros pour la France. Est-ce que ça veut dire finalement que Total sera un acteur incontournable pour financer cette transition ?
Oui, ça sera un acteur incontournable pour financer cette transition et pour les nouvelles technologies. Parce qu'encore une fois, il faut bien comprendre que nous avons une vision à 2050, mais nous n'avons pas les technologies pour arriver à cette vision-là. Je vous donne juste un exemple. On veut tous de l'électricité verte, si possible, pour certains, pas nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait mon cas. Mais admettons qu'on veuille de l'électricité verte. Cette électricité verte, elle est intermittente et donc ce qui nous manque dans cette chaîne, c'est le stockage d'énergie. Et encore une fois, il va falloir mettre énormément d'argent dans de la recherche publique et privée pour arriver à stocker cette énergie. Pourquoi est-ce que finalement, on revient à votre première question, pourquoi est-ce que finalement on consomme beaucoup de pétrole et de gaz ? Parce que ce sont des molécules et que les molécules, on peut les stocker. Vous avez beaucoup plus d'indépendance pour quand vous avez une voiture avec un moteur thermique, vous pouvez faire beaucoup plus de kilomètres qu'une voiture électrique aujourd'hui. Et encore une fois, la voiture électrique a fortement progressé. Mais encore une fois, pour ce qui est de l'équilibre sur un réseau électrique, nous n'avons pas ce genre de batteries qui sont saisonnières. Et donc c'est là, donc il va falloir beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup d'innovation. Et c'est peut-être aussi ce qui devrait encourager les jeunes générations. On va avoir besoin de beaucoup de cellules grises pour essayer d'aller vers une énergie plus verte.
Et la recherche, justement, ça fait partie des axes d'investissement de Total Energy aujourd'hui ?
Oui, ils investissent, mais une partie de la recherche est une recherche appliquée et donc ils investissent dans des processus moins polluants, ils investissent dans des processus plus efficients aussi pour produire du pétrole et du gaz de façon plus climatiquement moins gênante, mais une partie de la recherche doit être une recherche fondamentale et elle devra être faite par les universités et les grands centres de recherche souvent public.
Thierry Brosse, finalement donc, est-ce qu'on pourra se passer des groupes comme Total Energy pour la transition énergétique ?
Bah écoutez, l'innovation n'est pas forcément dans ces groupes-là. Regardez, on parlait de la voiture électrique tout à l'heure, regardez les groupes qui ont imaginé les voitures électriques ne sont pas ceux qui avaient des voitures thermiques. Regardez regardez Elon Musk avec ce qu'il a fait pour la voiture électrique ou pour ce qu'il a fait dans l'espace. Donc il se peut que l'innovation soit ailleurs. Mais ces groupes-là bénéficient, qu'on le veuille ou non, d'une rente, de la rente pétrole et gaz. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous ai évoqué ces chiffres-là. Quand vous produisez un baril à 10, à 20 ou à 30 dollars et que vous le revendez à 80, eh bien, vous avez une puissance financière qui est inégalée. Et donc, c'est là où les États européens pourraient essayer de mettre en cohérence ce que j'évoquais avec vous, la fiscalité climatique et ses rentes de situation.
ces rentes de situation, mais à l'avenir, qui pose question malgré tout. L'Agence internationale de l'énergie l'avait souligné en 2021, qualifiant quasiment d'indésirable un tout nouveau projet d'exploitation pétrolière. Aujourd'hui, Total porte plusieurs projets de nouveaux sites pétroliers, notamment en Afrique. Est-ce que des groupes comme Total Energy parient aussi sur la lenteur de réaction des États? Quelle est la stratégie de Total en la matière?
Alors, je ne crois pas qu'il parie sur la lenteur des États. Il parie sur la lenteur de nous, citoyens, à nous adapter. Je crois que c'est plutôt ça. Et c'est pour ça que j'évoquais avec vous le fait que, qu'on le veuille ou non, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, 2023, nous allons consommer plus de 100 millions de barils par jour sur la planète Terre. Et donc, c'est ça le problème. Le problème, il est que nous sommes très attachés à nos niveaux de vie, que nous ne souhaitons pas impacter cela de façon négative en consommant moins ou beaucoup moins. Alors, on a fait, et il faut le souligner, les Européens ont fait beaucoup d'efforts de sobriété sur les quelques derniers mois pour essayer de passer l'hiver sans coupure d'électricité ou de gaz. Et puis, vous avez, il faut quand même se rappeler, une grande partie de l'humanité qui n'a pas accès à l'énergie ou qui a accès à une énergie de façon très faible. Et donc, cette partie de l'humanité n'entend pas se serrer la ceinture. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, Total, BP, les autres sont face à une équation qui est impossible. Soit effectivement ils suivent les recommandations de l'AIE et dans ce cas-là, juste un ordre de grandeur. Encore une fois, si vous arrêtez d'investir dans le pétrole, la production de pétrole baisse à peu près de l'ordre de, mettons, 9% par an. Et donc, vous avez cette possibilité-là. Et de l'autre côté, eh bien, la demande qui, elle, croît plutôt de 2% par an. Et donc, c'est ça la très grande difficulté. C'est, il faut aussi éduquer les consommateurs à consommer différemment. Et ça ne se fait pas juste par un décret dans un palais présidentiel ou à la Commission européenne.
L'exemple ne peut pas venir d'en haut, selon vous, de ces groupes-là, justement, qui pourraient montrer, ouvrir le chemin ?
Alors, l'exemple doit venir d'en haut. C'est pour ça qu'effectivement, j'évoquais avec vous le principe du pollueur-payeur. Et effectivement, je pense que les grands groupes devraient ne plus bénéficier de permis gratuits à polluer. Et l'exemple, il devra être suivi. C'est-à-dire que, je vous rappelle que la Commission européenne voudrait que tout le monde paye son prix du CO2. Eh bien, ça veut dire que à la fin, l'automobiliste qui utilisera une voiture thermique sera alors soumis à ce principe de pollueur-payeur. Et c'est là la difficulté. Vous voyez bien que la Commission européenne a eu des difficultés à étendre le système de trading de CO2 parce que les particuliers n'y sont pas favorables. Et c'est là la difficulté politique pour ceux qui sont en place.
Merci beaucoup Thierry Bros, professeur à Sciences Po, spécialiste énergie et climat, de nous avoir accompagnés dans ce focus. On comprend bien toute la difficulté aussi liée à ces questions d'énergie et de transition. Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.